Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Ce soir, on se promène entre les Sainte-Marie-de-la-Mer, Amiens et l'Ouest parisien sur la route de la nouvelle carte animale. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Baubert. T'inquiète pas Gaston, ici t'es en sécurité. Tiens regarde, je te donne ton petit complément vitaminé. Mange mon petit, mange. Mais t'as rien à craindre ici. Aucune espèce invasive ne viendra t'atteindre. Et puis personne ne viendra détruire ton habitat. Variation climatique zéro ici, hein. Tu sais, je maintiens la température constante, 22 degrés. Il n'y a pas de pollution dans mon appart. Pas de pesticides, moi je suis tout bio. Dis Yvon, tu penseras à changer l'eau du bocal un de ces jours? Non, parce que ça fait 6 mois que Gaston patauge dans la même eau, là. Ah non, mais moi, attends, j'ai pas le temps, là, je suis pas maquillée. Allez, Gaston. Du nerf, mon vieux. Faut pas te laisser aller. C'est la survie de l'espèce qui est en jeu, là. Bon, a priori, mon poisson rouge n'est pas menacé d'extinction. Mais où sont passées les alouettes? Les bouquetins sont en péril. Touche pas au putois. Une disparition des abeilles coûterait 3 milliards. La malédiction des grenouilles. Un coup d'œil rapide sur les articles de vulgarisation scientifique dans la presse récente donne une petite impression de déluge. Même si la disparition progressive de certaines espèces est compensée par l'apparition d'autres. Quelques exemples toujours dans la presse. La chenille processionnaire est entrée dans Paris. Le frelon asiatique, véritable casse-tête chinois. Les punaises de lit, ennemi public numéro 1. Une cartographie animale vers son 21e siècle dessinée au fil du temps par l'urbanisation des campagnes, les variations climatiques et les passagers surprises des retours de voyages exotiques. Bonsoir François Moutou.
Bonsoir.
Vous êtes vétérinaire, épidémiologiste et membre de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Merci d'être avec nous ce soir avec Pierre Zagatti. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Entomologiste et spécialiste des espèces envahissantes. C'est beaucoup plus juste que ce que je disais tout à l'heure. On en parlera à l'Institut national de la recherche agronomique à l'INRA. Alors, un mot d'abord à tous les deux sur la méthodologie, qu'il s'agisse de mammifères ou d'insectes, avant de pouvoir dire qu'ils disparaissent ou qu'ils prolifèrent. Encore faut-il pouvoir les compter. Mais compter des animaux ou compter des insectes. Pierre Zagatti, c'est un casse-tête ça aussi, non?
Oui, donc c'est assez difficile à compter. Il faut utiliser des méthodes précises pour les inventorier, faire des inventaires d'insectes, des méthodes d'échantillonnage, comme on dit, de façon à pouvoir les contacter, s'assurer de leur présence ou de leur absence, et les compter. Et malheureusement, pour les insectes, on n'a pas en France actuellement de relevé quantitatif suivi à grande échelle. C'est-à-dire que les seules données qu'on peut avoir sur les insectes sont des données d'absence ou de présence. Mais les effectifs ne sont pas fiables. On peut pas dire il y a moins d'abeilles, il y a moins de papillons qu'autrefois, parce que on n'a pas une vision d'ensemble scientifiquement robuste des effectifs.
On ne bague pas les abeilles, ni les bourdons, et encore moins les papillons. C'est peut-être comme ça, vous, François Moutou, que vous procédez pour compter les mammifères?
En fait, j'ai presque envie de dire que nous sommes face à la même difficulté. On a deux niveaux de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, des scientifiques et les amateurs ou les associations naturalistes, qui deviennent parfois d'ailleurs des experts vraiment dans leur domaine. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques professionnels dont c'est le métier, mais on peut avoir beaucoup plus d'amateurs. Et les amateurs ont donc la chance de pouvoir passer du temps sur le terrain, beaucoup plus que ne pourraient le faire des scientifiques, et donc peuvent apporter des informations. Et si l'encadrement de la façon dont ils cherchent ces informations, la façon dont c'est recueilli et dont c'est stocké pour ne pas les perdre et dont c'est validé et mis à disposition, on peut valoriser le travail des uns par rapport à celui des autres. Et on commence à faire des cartes de répartition des espèces, mais c'est un peu la même chose pour les insectes. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de dire, on a une carte, on a des zones où il y en a. quantifier, c'est pas facile du tout, et il y a vraiment beaucoup de difficultés. Il y a des zones où on ne voit rien comme information. La question, c'est est-ce que on a cherché qu'on n'a pas trouvé? Est-ce qu'on n'a pas du tout été cherché? Ou est-ce que on a cherché d'une façon qui ne correspondait pas à la façon dont l'animal dans cet endroit-là se promène ou se balade ou habite? Et donc, il reste toujours des incertitudes. Et face à une absence, on a un vrai problème de méthode. C'est qu'on peut juste dire « je n'ai pas trouvé ». Et c'est difficile de pouvoir affirmer « il n'y a pas ». C'est deux choses différentes.
Vous parliez d'échantillonnage, Pierre Zagatti. Est-ce qu'on opère aussi, comme le font les instituts de sondage, c'est-à-dire en extrapolant ce qui a été observé sur des petits territoires ?
On le fait parfois, mais disons que c'est très délicat. L'insecte, on ne le voit pas toujours, même s'il est présent. Et ça, c'est une grosse différence, par exemple, avec les oiseaux ou avec certains mammifères. Je prends deux exemples. Le premier, c'est l'abeille pollinisatrice. Et un bon millier d'espèces d'abeilles sauvages. Si vous voulez échantillonner les abeilles, à vue, comme ça, vous allez observer quelque chose qui ressemble à une abeille, mais vous serez totalement incapable de mettre un nom d'espèce dessus, de savoir de quelle espèce il s'agit. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, ce sont tous ces insectes qui recyclent le bois, ce qu'on appelle les insectes saproxyliques aujourd'hui, d'un terme savant. Ce sont des insectes qui sont présents, mais qui sont cachés. Et il suffit pas de se promener le nez en l'air ou avec un filet papillon pour les repérer. Donc, une difficulté qui est encore plus grande que pour la botanique ou pour l'ornithologie, par exemple.
Allez, on va rester, comme vous le dites, le nez en l'air. Il y a ceux dont c'est le quotidien d'observer les animaux, et c'est sans doute le plus beau métier du monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend là, Frédéric Lamouroux ? Est-ce que vous arrivez à identifier ?
Oui, on essaye, oui. On a un petit rossignol là, qui est en train de nous faire ses petites trilles. Et puis à droite, il y a toute une colonie de hérons. Donc c'est dans les arbres qui sont juste à notre droite, ici. On entend à la fois cette espèce de bruit, comme ça, crac, 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 crac. Ce sont les petits qui réclament de la nourriture. Et puis il y avait une espèce de drôle de bruit, de gargouille, je sais pas si vous avez entendu. Voilà, ça. Ouais. Donc ça, c'est les graines garzettes. En fait, les graines garzettes, c'est un petit héron blanc qui a des plumes comme les cheveux, très fin. Ce sont des plumes qu'on appelle les plumes de noces. Et en fait, ce cri, l'aigrette le fait uniquement pendant la période de reproduction. Voilà. Donc on est sur deux types de chants différents. On a à la fois un chant de séduction, puisque le rossignol, en fait, chante pour attirer une femelle. Et là, on a plutôt des cris de jeunes oiseaux qui réclament de la nourriture.
Le parc ornithologique de Gaux, on est en pleine Camargue, juste à côté des Saintes-Maries-de-la-Mer, et vous avez donc 60 hectares en tout, où s'égaillent tous ces oiseaux.
On est sur d'anciens marais de chasse, et puis on a changé un petit peu la donne, on est passé en zone protégée. L'idée, c'était vraiment de créer une zone d'attraction pour les oiseaux. Et en fait, on a une grosse mission de conservation, donc on gère et on conserve ces espaces-là, mais on a une énorme mission de sensibilisation. Et le principe du jeu, c'était vraiment on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir amener les gens à être sensibilisés sur la protection de l'environnement. Et en fait, on s'est dit, le mieux, c'est de pouvoir voir des choses. Si on voit des choses de près, on va les trouver plutôt jolies, plutôt belles, et on va moins avoir envie de les détériorer. Et donc, on est vraiment sur cette proximité-là. La colonie de hérons qu'on entend juste à côté de nous, on a créé on a planté ces arbres, on a créé cette espèce d'îlot. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais on va faire passer un sentier le plus près possible. C'est un pari, Et puis finalement, ça a mis très longtemps, mais ça fonctionne aujourd'hui. Et donc, de l'autre côté du sentier, on peut observer des nourrissages, des constructions de nids à 7-8 mètres du sentier. En fait, ici, si on regarde bien, on est enfermé, nous, dans des sentiers dont on ne peut pas sortir, soit parce qu'il y a une barrière, soit parce qu'il y a de l'eau, soit parce qu'il y a de la végétation très forte. Et au bout d'un moment, les oiseaux ont perçu ce sentiment-là, et ils se rendent compte que c'est nous qui sommes enfermés, et puis eux, finalement, peuvent aller et venir. Donc on est invité chez eux, en fait. Et on n'essaie jamais de rentrer dans leur territoire. Et à ce moment-là, il y a un assez bon partage des lieux, quoi. Alors vous avez, Frédéric Lamouroux, depuis ce parc ornithologique du Pont de Gaux, un poste d'observation vraiment privilégié.
de ces oiseaux qui, pour certains, sont apparus, pour d'autres, ont peut-être disparu. Vous avez presque 70 ans de recul, puisque c'est votre grand-père qui a fondé ce parc.
Oui.
En 49.
Oui, c'est ça. C'est une vieille histoire de famille, hein. Mais ce qui est intéressant, ouais, c'est de voir qu'il y a vraiment une modification en fait du nombre de certaines espèces qui est flagrant. En 15-20 ans, il y a eu des nouvelles espèces qui sont apparues ici. Hein, il y a par exemple deux espèces qu'on voyait très très peu en Camargue quand j'ai débuté. Il y avait la spatule blanche, hein, donc qui est un grand oiseau blanc avec un très long bec très plat et qui se sert en fait de ce bec pour dénicher des poissons ou des crustacés dans l'eau. Cette espèce-là, on la voyait en avril et en septembre lors des deux passages migratoires. Et puis, ben aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de couples qui nichent. Alors, non pas sur des arbres comme c'est le cas partout ailleurs, mais sur des îlots au sol, sur des touffes de salicornes. Ça dénote aussi la capacité des oiseaux à s'adapter à leur environnement. En Camargue, il y a plus de salicornes que d'arbres. Et puis, ben cette spatule, son installation, en fait, elle est due principalement à un apport de nourriture très fort. C'est l'écrevisse de Louisiane. Puisque l'écrevisse de Louisiane, en fait, c'est une espèce invasive qui a été introduite par l'homme, qui petit à petit a colonisé tous les étangs et marais de Camargue. Et en fait, on s'est rendu compte que ben, la spatule blanche consommait énormément d'écrevisses de Louisiane. Alors, il y a une deuxième espèce aussi qui a fait son apparition, c'est l'ibis falcinelle, qui est un petit ibis noir au reflet mordoré, qui est vraiment un magnifique oiseau. On en a vu quelques-uns passer en vol. Et cet ibis, ben, il y a 20 ans, il y en avait un, peut-être deux couples en Camargue. Et puis aujourd'hui, on est à plus de 1200 couples. Et c'est pareil, cet oiseau-là en fait a bénéficié de l'écrevisse de Louisiane puisqu'il en consomme beaucoup.
Alors de nombreux rapports chaque année nous informent ou nous rappellent que différentes espèces d'oiseaux disparaissent chaque année, que ce soit des oiseaux nicheurs qui se reproduisent en France ou des oiseaux migrateurs qui ne viennent y chercher que nourriture et repos. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, encore une fois, depuis votre poste d'observation?
Ben, on s'est rendu compte, par exemple, il y a quelques années, qu'il y a deux espèces de sternes, qui étaient des oiseaux qui nichent en fait sur les lagunes et les bords de mer. Ces espèces-là n'arrivaient plus à nicher. En fait, elles s'installaient sur des zones qui étaient constamment dérangées. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on réagisse. Donc on a privilégié la création d'îlots de reproduction dans des zones protégées. Donc on a reconstitué en fait leur milieu, leur espace naturel, leur milieu naturel, leur zone de reproduction. On a créé des îlots ici dans les étangs et les marais ici à Pongo et on a tout fait pour que ces oiseaux viennent nicher. Alors c'est pas toujours une réussite, hein, quelquefois on n'y arrive pas. On est un peu apprenti sorcier, hein, on joue et puis quelquefois on y arrive bien.
Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être toujours en train de devoir aussi corriger les erreurs humaines? Est-ce que l'extension urbaine, les pesticides, voilà, qu'est-ce qui est en cause, d'après vous, quant à la disparition des espèces que vous venez nous citer?
Bah, tout ce que vous avez dit, hein. De toute manière, en fait, il n'y a pas de secret, hein. On a aujourd'hui un comportement vis-à-vis de la nature qui est un comportement très curieux, qui est un comportement d'observation, de contemplation, mais souvent les gestes au quotidien ne sont pas adaptés, c'est-à-dire que la fréquentation des plages, la circulation des véhicules aussi dans certaines zones, c'est compliqué, le bruit c'est compliqué, alors les pesticides évidemment j'en parle même pas, en agriculture, mais on peut aussi parler des pesticides domestiques, hein, puisque quand on traite par exemple sa terrasse, on élimine forcément tous les insectes que pourraient manger des hirondelles. La fermeture aussi des vieux bâtiments. Les nouveaux modes d'habitation aujourd'hui font que la plupart des vieilles granges, des vieux bâtis, qui abritaient avant énormément d'oiseaux, aujourd'hui sont fermés, sont utilisés à d'autres usages, et puis on prive beaucoup d'oiseaux d'habitats dans lesquels ils venaient s'installer. Donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à mener, il y a toute une sensibilisation à faire, il y a encore beaucoup de boulot, hein, c'est mieux qu'avant évidemment. Moi, j'ai démarré ici il y a une bonne quinzaine d'années. Et le comportement, en tout cas, des visiteurs ici sur l'espace à Pongo était moins bon que ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça passe tout le temps par de la prévention, de la sensibilisation, du travail avec les enfants, du travail avec les familles aussi. Hein. C'est un boulot permanent, quoi.
Les enfants qui ont cette remarque quand ils visitent le parc, nous disiez-vous, s'ils vous disent « mais tous ces oiseaux en liberté, vous n'avez pas peur qu'ils partent ?»
Ouais, ça nous fait toujours sourire. Et en fait, on casse un peu ce mythe en disant « mais d'abord, ils ne nous appartiennent pas, ils sont venus se poser ici, ils sont venus seuls, et puis s'ils partent, ils vont faire ailleurs et d'autres les remplaceront. Et nous, on est contents de les voir arriver, de les voir partir, de les voir vivre. » Et puis, j'espère qu'on la verra l'année prochaine. En tout cas, nous, on fera tous les efforts pour pouvoir à nouveau l'accueillir l'année prochaine, quoi.
Thank you. une biologiste américaine, avait écrit en 62 un ouvrage devenu best-seller, comme on dit. C'était Silent Spring, printemps silencieux, et dans lequel elle prophétisait la disparition des oiseaux, notamment à cause des pesticides. Pour l'instant, François Moutou, ils chantent encore, on les entend.
On entend toujours des oiseaux, en particulier au niveau des zones humides, mais dans nos campagnes, si on prend des oiseaux comme les alouettes, ou même comme les hirondelles, on a plusieurs espèces d'hirondelles dans notre pays. Malgré tout, les populations ont diminué de façon considérable. Alors on peut parler de le fameux test du pare-brise. Les insectes, enfin au mois de mai, au mois de juin, quand j'étais enfant, quand mes parents conduisaient la voiture dans la campagne, peu importe l'endroit, quand on en arrivait à la maison, le pare-brise était couvert d'insectes écrasés. En fait, le même trajet à la même époque, avec une voiture qui sera forcément un peu différente, mais je pense que c'est pas lié au modèle de voiture, le pare-brise est propre. Et si ces insectes-là, au-delà du fait qu'ils salissent le pare-brise, sont nourriture de quantité d'insectivores, ne sont plus là, forcément, ça va mal se passer.
C'est pareil pour les oiseaux, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire, il faut observer pour voir que certains ont disparu, notamment au-dessus des champs d'agriculture.
Mais quand on voit la plaine de Brie, la plaine de Beauce, les milliers de kilomètres de haies qui ont été rasées, pour des raisons qu'on sait expliquer, bien sûr, mais ça n'est pas sans conséquence pour la biodiversité, pour l'environnement, pour la faune sauvage. Alors, était-ce un bien nécessaire? Je n'en sais rien. On peut certainement faire autrement. En tout cas, on a fait comme ça. Et aujourd'hui, il y a des impacts, non seulement sur la diversité vivante, mais sur l'écoulement des eaux, sur les risques d'inondation, sur un certain nombre de conséquences pratiques qui peuvent nous toucher, en tout cas, à toucher certains de nos contemporains.
Pierre Zagatti, c'est ces oiseaux dont on admirait les balais au-dessus de nos campagnes et qui ont quand même, s'ils n'ont pas disparu, en tout cas se sont-ils raréfiés, ils mangeaient de gros insectes. Il faut toujours commencer par le commencement et tout ça, c'est un écosystème, comme on dit. Et
les insectes sont une des mannes préférées des oiseaux, hein, de nombreuses espèces insectivores. Et on remarque d'ailleurs que certains oiseaux sont spécialisés dans les gros insectes, les gros criquets, les gros coléoptères, et que les pigrièges, par exemple, et ce sont souvent, ou la chouette chevêche, ce sont souvent ces oiseaux-là qui ont le plus diminué. Alors après, si vous voulez, c'est toujours très difficile. On n'a quasiment pas en France métropolitaine au jour d'aujourd'hui d'espèces qui aient disparu, au sens n'existe plus. On a par contre, les inventaires le montrent, on a des espèces qui étaient présentes dans 80 départements il y a 50 ans, qui sont présentes dans 3 départements aujourd'hui, généralement vers le sud d'ailleurs. Ça c'est un cas de figure qu'on connaît tous. Par contre, c'est vrai que, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir une vision réelle, objective, quantitative des effectifs. On parle du pare-brise propre ou sale. Je donnerai une anecdote. Si vous avez au mois de juin 15 jours de sécheresse et que le 16e jour, il y a un orage violent et le lendemain du soleil, si vous prenez la voiture ce jour-là, vous faites 100 km, votre pare-brise sera couvert de pucerons, de moucherons, d'insectes écrasés. Hein, voilà. Tout simplement parce qu'il y aura une éclosion en masse d'insectes qui attendaient les conditions favorables pour émerger à l'âge adulte. Ceux-là vont se prendre sur le pare-brise et c'est un biais, en fait, d'échantillonnage qui est important. C'est pour ça que...
Mais donc, ils sont là.
Ils sont là, oui, mais il est très probable que leur abondance a considérablement diminué, que la richesse spécifique de votre pare-brise est plus du tout la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 30 ans. Encore faudrait-il avoir réellement des éléments scientifiques pour le montrer objectivement.
Alors que ce soit pour les oiseaux, pour les insectes, pour plusieurs mammifères, François Moutou, qu'on pourra énumérer, on incrimine, quand on parle de leur disparition, de leur raréfaction, on incrimine l'extension urbaine, les activités humaines. Or, depuis quelques années, à chaque fois que sont mises en œuvre de grands chantiers, qu'il s'agisse d'une ligne TGV, d'une route, d'un aéroport, d'une zone commerciale, des mesures sont prises en faveur de la biodiversité. C'est désormais inscrit dans la loi. Comment ça marche et est-ce que ça marche ?
Alors c'est inscrit dans la loi depuis celle de 1976 sur la protection de la nature, qui a été remplacée récemment en 2016 par une loi sur la reconquête. Alors c'est drôle qu'on passe d'ailleurs de protection à reconquête. Est-ce que c'est significatif de la tendance? Est-ce que c'est une bonne chose? Les deux mots sont curieux l'un après l'autre, dans ce sens-là en tout cas. Et alors ce qu'il faut faire, c'est avant de faire ce grand projet, inventorier ce qui existe sur le trajet qui va être impacté, et donc normalement tenir compte de la présence de ces espèces. Alors, il y a un biais terrible, c'est qu'on va prendre en compte des espèces qui sont officiellement protégées. Celles qui sont là, mais qui n'ont pas de statut particulier ou pas de statut du tout, finalement, on considère que c'est pas grave. À force,
elles finiront par l'être.
Ben oui, forcément. Et il y a un principe qui date de 1976, mais qu'on a développé que récemment, c'est le principe de compensation. Alors on dit, voilà, on fait le tracé tout droit pour l'autoroute ou pour la ligne à grande vitesse du train. Il y a une jolie mare avec plein d'animaux dedans, des insectes, des grenouilles. On va la détruire forcément parce que c'est pile dans l'axe. Et on va compenser. Alors comment? On fait une mare artificielle à côté qui sera à la place de celle qui était là. Est-ce que les animaux vont suivre? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que on fixe un périmètre de protection sur la mare naturelle qui est un peu plus loin et celle-là, on n'y touchera pas dans les 50 ans qui viennent? Compenser, c'est pas simple. On comprend l'idée quelque part, mais on comprend aussi les difficultés. Et puis si une espèce disparaît, comment compenser une disparition totale?
Trouver des agriculteurs aussi qui seraient consentants à laisser des terrains en jachère, ce qui n'est pas évident.
À qui appartiennent ces terrains? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est à une commune? Est-ce que c'est à des particuliers? Tout ça va entrer en jeu.
Alors Pierre Zagatti, ça demande un travail minutieux de repérage, de reconnaissance, mais aussi de bonne foi.
De bonne foi, oui. D'abord parce que, comme l'a dit François Moutou, on va ne repérer que les espèces protégées officiellement par la loi. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Et puis, si vous voulez, après, au jour d'aujourd'hui, je fais une route, donc je vais détruire un milieu naturel intéressant et je vais m'engager sur l'honneur, par exemple, à reconstruire quelque chose, à installer une mare dont on ne pourra juger de la richesse et de l'efficacité de la mesure que dans 5, 10, 20, 30 ans. Et en fait, quand on explore un petit peu la loi, on s'aperçoit qu'on a très peu de garanties de pérennité. Hein, ce sont des engagements qui sont faits comme ça, et nul ne peut dire actuellement si les mesures de compensation qui ont été adoptées, qui ont été avalisées par les pouvoirs publics, seront réellement suivies.
Est-ce que néanmoins vous constatez sur le terrain que les services de l'État, notamment les DREA, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont de plus en plus exigeantes? Avant de donner un feu vert à un projet, on s'assure que ces voyants-là, de la possibilité de les choses.
Bon, par rapport à mon expérience du Conseil national de la protection de la nature, par exemple, je constate qu'il y a réellement une prise en compte et une efficacité des services déconcentrés de l'État à ce niveau-là. Mais bon, il y a encore tous les projets d'aménagement ne passent pas par les fourches caudines de ce genre de système éviter, réduire, compenser. Et on voit un certain nombre de projets d'aménagement, des fois de moindre importance en surface, mais qui ont des conséquences considérables sur l'environnement, qui n'ont absolument pas été considérés de ce point de vue-là.
Feuille d'oreille d'ours, vous touchez, c'est quand même assez rigolo.
Mais c'est doux, on dirait du velours.
Bah ouais, moi ça, c'est assez proche de l'idée que j'ai jamais touché une oreille d'ours, hein, personnellement, mais c'est assez proche de l'idée que je m'en fais. Et là, les oreilles d'ours, ce qui est rigolo, c'est que c'est une plante qui couvre beaucoup le sol. Dès qu'on en met un petit peu dans un jardin, ça va se propager assez rapidement. Et dès que c'est en fleur, ça va attirer beaucoup d'abeilles sauvages, notamment des petites abeilles qu'on appelle les antidies cotonnières, qui vont aller récolter le poil de la plante pour garnir leur nid. Une sorte de petit nid douillet dans lequel elles vont pouvoir aller pondre leurs œufs.
Les antidies cotonnières.
Oui, elles sont assez rigolotes, elles sont jaunes et noires en plus, elles tournent beaucoup, elles sont très territoriales, les mâles notamment, ils défendent vraiment leur territoire et quand on s'approche pour les observer, souvent elles se mettent en vol stationnaire juste devant notre tête pour nous regarder et puis vérifier qu'on n'est pas un intrus.
Alors moi, je suis déjà toujours fascinée par les gens qui savent reconnaître les oiseaux en vol. Mais alors vous, Mathieu de Flores, vous faites encore plus fort. Vous savez reconnaître les insectes, alors que moi, je vois même pas qu'il y a des insectes.
Ouais, en fait, c'est juste qu'on a l'œil. Moi, c'est souvent, j'anime des sorties nature. On passe sur un chemin. Il y a un groupe de 20 personnes qui passent. Et je leur dis, mais vous avez rien vu du tout. Et il y a une énorme bête au milieu du chemin. Personne ne l'a vu. C'est qu'en fait, les choses qu'on ne connaît pas, elles n'apparaissent pas à nos yeux.
Voilà, vous avez un petit espace naturel devant la maison des insectes de Guyancourt. On a entendu un drôle de bruit là-bas. Qu'est-ce que ça pouvait être?
Un chevreuil.
Un chevreuil.
Ouais, il y a ici en fait un chevreuil.
Bravo,
qui est passé. Il l'a vu, nous on tournait le dos donc.
C'est qu'on les connaît pas, ces petites bêtes, c'est pour ça qu'on les voit pas.
Bah ouais, là pour le coup. Mais là, oui, ici on est tout près de Versailles. On a des champs cultivés autour de nous. On a un petit espace de jardin, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, même dans une zone assez... pas forcément très propice pour la biodiversité, bah on a beaucoup de choses. Alors après, il y a les chevreuils, effectivement, on a beaucoup de sangliers, c'est-à-dire que très régulièrement, on retrouve le terrain complètement retourné, et puis on a plein de bestioles, vraiment, on a plein de bestioles. On a creusé une mare il y a quelques années, et en l'espace de 2 ans, il y avait 4-5 espèces de libellules qui venaient se reproduire sur le site. On avait des tritons, des crapauds, alors que franchement, autour, c'est un peu de la culture intensive.
Alors, on peut avancer un peu dans votre mini-jungle pour observer de plus près cette pollinisation qui est au cœur de vos observations et de votre travail.
Oui, alors là, on a des scabieuses.
Donc des fleurs mauves,
violet clair, avec des longues tiges, avec des fleurs en pompons au bout. Là. Et ce qu'on remarque, c'est que là, on a une abeille qui est en train de butiner. Ça, c'est une abeille mellifère, c'est-à-dire l'abeille à miel. Et puis après, on a une multitude de petits insectes qui peuvent paraître un petit peu insignifiants. On a des petites mouches qui font du vol sur place, qu'on appelle des sirfs. Alors les sirfs, c'est notamment de bons alliés des jardiniers, parce qu'en fait, les adultes vont polliniser, ils vont butiner, en fait, ils viennent manger sur la fleur. La fleur leur offre une ressource en nectar et en pollen, qui leur permet de se nourrir. Et puis après, ils vont aller pondre leurs œufs sur une plante sur laquelle il y a des pucerons. Les larves vont, elles, manger des pucerons. Donc c'est un bon allié du jardinier, parce que c'est un pollinisateur et en même temps un prédateur par ces larves. Et donc là, les fleurs, c'est vraiment des panneaux publicitaires qui disent venez manger gratis. Et les insectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent pas on va polliniser, ils se disent juste on va manger. Mais ce transport du pollen fait que les plantes à fleurs peuvent se reproduire, donner des graines, des fruits. Et évidemment, une bonne partie de notre alimentation repose sur l'activité de ces insectes.
C'est vraiment un échange de bons procédés entre ces insectes et ces fleurs, un service écologique gratis, comme vous disiez Mathieu de Florès, mais un service qui est menacé. C'est tout l'objet du discours de la Maison des Insectes aujourd'hui.
Oui, c'est la Maison des Insectes, c'est la maison donc de l'Office pour les Insectes et l'Environnement, qui est notre association. On est une association de protection de la nature et on a aussi un programme de sciences participatives qui s'appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs, SPIPOL, dans lequel on demande aux personnes, n'importe quel citoyen, qui a juste envie de passer un peu de temps à observer et donner un peu de temps pour, entre guillemets, la science, on demande aux gens de choisir un type de plante en fleur, ça peut être sur un balcon, ça peut être dans un jardin, ça peut être n'importe où, et de photographier tous les insectes différents qui vont passer dessus pendant 20 minutes précisément. Donc comme ça, on a une photographie instantanée de la diversité des insectes qui viennent butiner sur une espèce de fleur. Et toutes les données récoltées, qui sont très originales pour le coup, sont exploitées par des chercheurs, notamment au Muséum National d'Histoire Naturelle, pour comprendre le fonctionnement des réseaux de pollinisation. Parce que la problématique à l'heure actuelle, on parle beaucoup de changement climatique, sur les pollinisateurs, c'est quelque chose qui s'observe de façon assez criante. Et les problématiques de changement climatique pourront peut-être être suivies, étudiées grâce à ce genre de projet.
Vous parlez changement climatique, les pesticides sont en cause. Quelle est la première menace qui pèse sur la pollinisation?
Une des premières menaces, c'est comme pour beaucoup d'autres espèces, c'est déjà la destruction des milieux. C'est-à-dire quand on remplace un joli bocage avec des haies, qui vont fleurir avec un certain nombre de fruitiers à l'intérieur, par un grand champ de blé, forcément on a une perte de biodiversité qui est colossale, et donc c'est quelque chose qui est très destructeur sur les pollinisateurs. Après, il y a des problématiques effectivement autres qui peuvent être les pesticides. Là clairement on a des insecticides, notamment les néonicotinoïdes, qui ont un impact très fort, notamment sur les abeilles domestiques. Puis après, il y a aussi la problématique du changement climatique, où on peut avoir tout simplement des problèmes de ce qu'on appelle de phénologie. Par exemple, une espèce d'abeille qui va butiner qu'une seule espèce de plante, quand la plante elle a décalé du fait du réchauffement sa date de floraison, mais que l'abeille n'a pas pu décaler elle sa période de sortie, cette espèce d'abeille, imaginez bien que si elle ne trouve pas sa ressource de nourriture pour se reproduire, qui va lui permettre notamment de récolter du pollen et donc de nourrir ses larves, ça peut être la disparition pure et simple.
Mathieu de Florès évoque le réchauffement climatique, en tout cas les légers dérèglements climatiques qu'on a pu constater. Mais je croyais, Pierre Zagatti, que la nature s'adaptait de toute façon et que les insectes, comme certains mammifères, pouvaient s'adapter. Est-ce que ça arrive et qui sont ceux qui pâtissent le plus de cette légère remontée des températures?
Alors bon, les scientifiques utilisent plus volontiers le vocable de changement global que de changement climatique, tout simplement parce que, on en a parlé, l'urbanisation, la mondialisation des échanges, etc., va de pair avec une augmentation de la température. Et les conséquences, les effets qu'on observe, il est souvent très très difficile de les mettre sur le dos uniquement d'une augmentation de la température. Bon, l'exemple classique, c'est l'adaptation d'espèces envahissantes à des climats plus nordiques. Ces espèces envahissantes, elles sont arrivées chez nous, transportées par l'homme. Elles s'adaptent parce que le climat a changé, mais donc, vous voyez...
Parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, ici.
Qu'elles n'ont pas encore de prédateurs. Généralement, la nature s'adapte assez vite. Hein. Bon, un exemple tout à fait classique, hein, c'est un papillon qu'on appelle le brun du pélargonium, qui est un papillon sud-africain qui est arrivé, ça fait maintenant une vingtaine d'années, en Europe, donc dont les chenilles vivent à l'intérieur des feuilles du géranium, enfin ce qu'on appelle le géranium dans les maisons, qui est en fait un pélargonium. Donc le papillon ne supporte pas le gel. La chenille ne supporte pas le gel. Mais le pélargonium non plus. Ce qui fait que les gens rentrent leur géranium en hiver pour les protéger du froid, et rentrent en même temps les chenilles qui passent l'hiver comme ça. On a un autre exemple très amusant. Alors là, c'est plutôt une espèce envahissante qui est plutôt sympathique. On a le monarque africain.
Il y a quelques espèces envahissantes sympathiques alors.
Oui, envahissantes. Bon. Ce sont des espèces nouvellement arrivées, on va dire. Le monarque africain, qui est un très beau et très gros papillon de jour, qui vit en Afrique subsaharienne, et depuis une quinzaine d'années, il est naturalisé dans le sud de la France. Pourquoi est-ce qu'il est naturalisé dans le sud de la France? Sans doute parce que le climat s'est réchauffé un petit peu, mais surtout parce que sa plante hôte est maintenant commercialisée par les distributeurs de horticoles. Voilà. Alors qu'avant, ces plantes n'étaient pas disponibles dans le commerce. Vous voyez, encore une fois, entre
on
le changement...
On ne peut pas incriminer que la hausse des températures. C'est un changement global.
Voilà, tout
comme
à fait.
Comme vous dites, François Moutou, dans le domaine des mammifères ou des oiseaux, je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres exemples à partager, puisqu'on dit que globalement, il y a un mouvement vers le nord de certaines espèces.
C'est sûr, et alors on est donc dans la zone ouest du continent européen. Le mot savant, donc, c'est la zone paléarctique qui a été touchée par les glaciations au début du quaternaire. Et donc, nous avons gardé quelques espèces souvenirs de l'époque des glaciations qui sont réfugiées dans les zones montagneuses, puisque le sommet des montagnes, comme les Alpes, rappelle les climats beaucoup plus boréaux qu'on trouve en Scandinavie ou au nord de la Russie. Et ces animaux-là, ils commencent à être poussés par le bas par leurs congénères qui sont, eux, adaptés aux plaines. Et par exemple, on a un lièvre particulier dans les Alpes, le lièvre des Alpes, le blanchon, qui devient tout blanc pendant l'hiver, qui est en train d'être repoussé vers le haut par le lièvre brun de plaine qui lui trouve de plus en plus haut des climats qui lui conviennent. Mais lorsque le lièvre blanc sera sur les glaciers, il ne pourra pas aller beaucoup plus haut et il n'a plus rien à manger sur la glace ni sur la roche. Et lui, il est condamné. Et ce qui est assez étonnant par rapport à l'évolution de ce changement, c'est surtout sa vitesse par rapport aux paramètres dont on dispose sur l'histoire de la Terre. Il semble quand même que notre espèce, en ce moment, depuis quelques décennies, c'est vraiment pas très vieux, fait que tout va plus vite. Et la nature, du coup, elle a un peu moins de facilité pour s'adapter. Il lui fallait du temps jusqu'à présent. Les changements ont été, sur des grandes échelles de temps, relativement lent par rapport à tous les critères dont on dispose pour les mesurer. Et là, ça semble assez rapide et donc il y a sans doute des espèces qui auront du mal à trouver le rythme pour se trouver une parade.
Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, Pierre Zagatti, notamment en la matière.
Voilà, donc on a exactement la même problématique au niveau des insectes, notamment des insectes de montagne qui s'élèvent en altitude jusqu'à ce qu'évidemment ils ne puissent plus survivre. Et donc des espèces qui risquent de disparaître à brève échéance de nos climats, en tout cas, survivre, je pense, dans le nord de l'Europe. Mais par contre, on a des espèces qui vont s'éteindre de façon inéluctable, et ça, on les connaît.
Lesquelles?
En Méditerranée, par exemple, il y a un groupe à Marseille qui étudie les crustacés. Et si vous regardez bien une carte de l'Europe, vous voyez que le golfe du Lion, là où se trouve Marseille, c'est un cul-de-sac vers le nord. C'est-à-dire qu'on a des espèces qui sont poussées vers le nord dans la mer, des petits crustacés notamment, et qui ne peuvent pas aller plus au nord que Marseille. Et l'équipe en question a étudié, enfin, une expérience de la biodiversité locale, il y a 30 ans, une espèce était majoritaire en surface, en eau de surface. Aujourd'hui, cette espèce, on ne la trouve plus que dans des grottes très profondes. Pourquoi ? Parce que l'eau est plus froide. Et il est évident que l'espèce qui ne vit que en Méditerranée, dans quelques années, va disparaître totalement de la surface de la Terre, enfin de la mer en tout cas.
Alors c'est aussi l'exemple de ces rougets barbets qu'on pêche par dizaines à Boulogne-sur-Mer, alors que ce sont des poissons qui n'aiment pas les eaux froides. Mais est-ce que ça veut dire que l'eau s'est réchauffée ou que le rouget s'est adapté ?
Non. Disons qu'en mer, on a une réaction des espèces au changement de température qui est beaucoup plus visible et rapide que sur Terre. Sur Terre, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des gens qui étudient la répartition actuelle des populations d'espèces mobiles, comme les oiseaux, comme les libellules, et qui se rendent compte que les espèces, certaines en tout cas, migrent vers le nord, enfin, ont une répartition plus nordique que ce n'était le cas il y a quelques années, mais il y a du retard, entre guillemets. C'est-à-dire que les isothermes, les zones d'équilibre température remontent plus vite vers le nord que les espèces qu'on suit. C'est ce qu'on appelle une dette climatique, et qui montre bien le défaut d'adaptation de ces espèces par rapport au changement. Encore une fois, quand une espèce vit quelque part, c'est parce que les conditions climatiques, entre autres, lui conviennent, mais aussi parce qu'elle a des situations de disponibilité de nourriture, de concurrence, de prédation, de parasitisme qui lui conviennent. Il n'y a pas que la température qui guide ça. Et quand les choses changent rapidement, il y a un facteur adaptation des espèces qui nous est actuellement totalement inconnu.
Est-ce qu'on peut dire que on parlait tout à l'heure des mesures prises pour préserver la biodiversité pendant et après des projets d'aménagement du territoire, est-ce qu'il suffit qu'on laisse souffler un peu la flore pour que la faune se reconstitue ? Est-ce qu'on a des exemples de réintégration réussie ?
Alors c'est sûr que parfois le mieux c'est ne rien faire, c'est parfois une stratégie d'ailleurs. Alors on a toujours l'impression que si on fait quelque chose c'est mieux que de ne rien faire, mais parfois le mieux est pas toujours synonyme de bien. C'est compliqué parce que c'est pas du tout dans la logique de notre culture vraiment ancrée. Laisser la nature faire, ne toucher à rien, ne pas tout le temps... parce que ramasser les bois morts ou les mauvaises herbes, imaginez, je ramasse les mauvaises herbes, qu'est-ce qu'elle a de mauvais cette herbe ? Simplement, c'est pas celle que j'ai plantée, c'est pas celle qui va me rapporter quelque chose, et je l'aime pas, je la connais pas, bon, je l'enlève. Mais elle est là, il y a peut-être beaucoup d'explications pour interpréter, mais elle a peut-être un rôle par rapport à des plantes qui vont cohabiter avec elle, des animaux qui vont la consommer, qui seront eux-mêmes consommés par d'autres. Et donc il y a des endroits où on a laissé, on s'est retiré un tout petit peu, et on a vu des choses repartir de façon assez étonnante. Et ça, c'est possible aussi. Mais le problème, c'est qu'il faudrait des surfaces qui aient un sens par rapport aux espèces. Si on raisonne en insectes, évidemment, on peut imaginer sur des surfaces de quelques hectares des résultats intéressants. Si on raisonne en ours brun, il faut des centaines de kilomètres carrés. Et aujourd'hui, le paramètre démographique humain, on est toujours plus nombreux, fait qu'on aura de moins en moins de facilité pour accepter de laisser des surfaces aussi grandes sans vouloir y intervenir coûte que coûte, quelles que soient les raisons.
Allez, parfois, à l'échelle de chacun, chacun peut prêter main forte à une espèce qu'il affectionne particulièrement. Attention, parfois, ça pique.
Alors, ce petit hérisson a eu un gros problème à une patte. On l'a amené chez un vétérinaire qui a dû l'amputer. Et le souci, c'est qu'il y avait une autre patte, la patte à côté, qui était esquintée. Donc là, on ne pouvait quand même pas se permettre qu'il y ait deux pattes amputées. Hein, donc là, c'est pas possible. Donc là, on fait des soins sur l'autre patte pour essayer de lui sauver. Alors, la difficulté chez le hérisson quand il est en boule, c'est qu'il faut attendre qu'il se déboule. Et ça prend un petit peu de temps, malheureusement. Voilà, donc on suppose que ce petit hérisson a été victime d'un animal... un chien, ou parce que les blessures ressemblent à des morsures. Alors, je vais demander un petit coup de main. Est-ce que vous pouvez me tenir ça ? Voilà, merci. Bon, bah, c'est pas mal. C'est complètement refermé. Il y avait une grosse blessure là au niveau de la patte. C'est complètement refermé. Et donc là, il y a une petite croûte qu'il faut que je fasse sauter absolument pour voir s'il n'y a pas de pus dessous. Oui, c'est propre. Oh, c'est nickel. Le soin est réussi, donc je vais appeler la dame qui me l'a amené pour lui dire que Tarzan, c'est une réussite complète au niveau de l'amputation. Et là, c'est quasiment guéri sous la croûte, c'est parfait. Et hier, on m'a amené vraiment un tout petit bonhomme.
Ah oui, il est minuscule.
Voilà, alors ça fait 20 ans que j'ai des hérissons. Et c'est la première fois que j'ai un petit animal aussi fatigué, aussi desséché. Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire que normalement, avec la dentition qu'il a, il devrait être comme ça.
Il devrait être beaucoup plus gros.
Oui, mais en tout cas, ce n'est pas normal. Je vous dis, j'ai eu pratiquement 1500 hérissons, je n'ai jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais.
Comment vous l'avez appelé, celui-ci ?
Alors, je l'ai appelé Jerry. Et en fait, je l'amène avec moi au boulot, puis je le gave au boulot, parce que forcément, il ne peut pas manger tout seul.
Vous lui donnez sa nourriture dans une seringue ?
Voilà.
C'est vrai que ça n'a pas l'air de passer.
Donc là, il est sur un coussin chauffant qui marche électriquement. Et au boulot, moi, je prends une bouillotte et voilà.
Alors, tous ces petits pensionnaires, ces petits mammifères insectivores et nocturnes ont trouvé refuge chez vous. On est en Picardie, on est sur la route d'Amiens, mm-hmm. à Foincamp. Mm-hmm. Et vous, Anne, ça fait combien de temps que vous avez décidé comme ça de créer une petite clinique pour hérissons ?
20 ans. 20 ans, donc mon mari m'a ramené un petit hérisson qui était passé sous une... pas sous une voiture, parce que quand ils sont passés sous les voitures, on ne peut pas les récupérer, mais un petit hérisson blessé. Et il me l'a ramené, on ne savait pas vraiment comment s'en occuper. Enfin, on faisait ce qu'on pouvait avec l'aide d'un vétérinaire. Et Murphy allait bien, après n'allait plus bien, etc. Il a fini par décéder au bout d'un an et demi. Et on a fait faire une autopsie, on s'est aperçu qu'il avait des vers pulmonaires. Donc un simple vermifuge aurait suffi. J'ai trouvé ça vraiment trop bête. Alors nous sommes allés, j'étais inconsolable, donc nous sommes allés en Angleterre. Murphy est mort le 18 juillet 1998 et nous sommes partis au mois d'août en Angleterre faire une formation dans les centres de soins anglais où ils sont très très pointus sur la sauvegarde de la faune sauvage. Et on a décidé donc de faire la même chose en France. On a créé notre association donc en octobre, le 18 octobre 98, donc ça n'a pas traîné. Et en 99, j'avais mon certificat de capacité parce que le hérisson est une espèce protégée. Donc, on n'a pas le droit de le garder, de le séquestrer, etc., de lui faire du mal. Et même de lui faire du bien sans avoir un certificat de capacité. Donc, j'ai passé mon certificat de capacité et voilà, et tout est parti de là.
Quand on pense espèce protégée, on ne pense pas nécessairement au hérisson. C'est vrai, on se dit, le hérisson, il y en a partout en France.
Alors, il y en a partout, mais c'est un animal nocturne. Donc, on n'en voit pas beaucoup. Donc, on ne se rend pas compte que cet animal est en voie de disparition. Un animal qui a côtoyé les mammouths, donc qui est... c'est un patrimoine important qu'il faut préserver. Si sa capacité de se mettre en boule lui a permis de lui sauver la vie face à des prédateurs naturels, ça ne sert plus à rien aujourd'hui face aux voitures. Aux pesticides, si j'ai pas mis dans le bon ordre, c'est aux pesticides, aux voitures. Alors, il y a plein de pièges dans les jardins, parce que comme on construit de plus en plus, le hérisson vient se réfugier dans nos jardins. Nous, on ne sait pas forcément qu'on a un hérisson dans les jardins. Donc, on passe la tondeuse dans les endroits où c'est le plus fouillis, et là, c'est la cata. On met du métaldéhyde, ce qui est une abomination complète. Hein. Le métaldéhyde, c'est le tulimas, les granulés bleus, là. On met des filets sur les fruits, pour protéger les fruits alors que le hérisson va surtout manger les limaces, donc il est prisonnier des filets. Le soupirail, c'est aussi un problème. La piscine, c'est aussi des gros soucis. La maltraitance des gitans qui les consomment impunément alors qu'ils savent tout à fait, ils connaissent parfaitement le statut d'espèce protégée. Et en 60 ans, l'espèce a diminué de 90%. Ça veut dire que si aujourd'hui, on ne se mobilise pas vraiment de façon draconienne, on va perdre ce patrimoine et c'est consternant.
Est-ce qu'il y a des statistiques, François Moutou, des statistiques hérissons pour savoir où on en est?
Et malheureusement, ça manque bien parce que j'entends Anne qui parle de 90% de diminution. Ce sont au mieux des estimations, mais on n'a pas de référence. Et pour l'instant, la répartition n'a pas beaucoup changé. Il est toujours à peu près présent partout. Certainement, les densités ont diminué. Et c'est vrai que parfois, le printemps, on le remarque. Tiens, j'ai vu le premier hérisson écrasé sur une route. Le printemps n'est plus très loin. Enfin, c'est un signe. Avant, on cherchait la première hirondelle ou le premier chant du coucou. Maintenant, c'est le premier hérisson écrasé. C'est pas très sympathique. Et donc, sans données, on ne peut pas chiffrer.
Est-ce que pour la fin de cette émission, on peut conclure sur une note optimiste en énumérant quelques animaux qui sont réapparus, souvent à la faveur de programmes de protection d'ailleurs?
Moi, je peux citer un qui est revenu tout seul parce qu'on a simplement arrêté de l'embêter, c'est la loutre, qui n'avait pas complètement disparu de France, mais qui était vraiment limitée à la bande côtière, les départements atlantiques, et qui revient maintenant beaucoup plus vers l'intérieur, et qui va revenir bientôt sans doute dans le bassin du Rhône, si c'est pas déjà fait. Le castor qui a aussi fait un retour. Le bouquetin des Pyrénées qu'on a réintroduit depuis les Sierras espagnoles. Et puis notre ami le loup, qui est rentré d'Italie, dont certains ont peut-être entendu parler déjà, et qui essaye de trouver sa petite place dans tout ce paysage.
Et qui cause beaucoup plus de débats que ces autres animaux. Pierre Zagatti, au niveau des insectes?
Moi, je suis résolument optimiste de toute façon. J'ai un âge où je me souviens bien, j'étais déjà naturaliste averti dans les années 80, et c'était la catastrophe totale. Il n'y avait plus rien, tout avait disparu, etc. Et il s'est passé un certain nombre de choses depuis 1980. Les collectivités locales ont demandé des inventaires dans des endroits où les naturalistes n'allaient jamais. Il s'est passé qu'il y a eu des bases de données qui ont commencé à être échangées. Tout ça, ça fait qu'on a retrouvé des espèces, beaucoup d'espèces d'insectes qu'on pensait disparues, alors qu'en fait, elles s'étaient maintenues dans des endroits où on n'allait pas. Et d'un autre côté, il y a Internet qui permet aujourd'hui d'avoir une transmission du savoir naturaliste beaucoup plus rapide qu'à l'époque où il fallait connaître un grand ancien. Et je pense que le salut vient de la progression de la connaissance et que de ce point de vue-là, on est quand même en bonne voie.
Alors messieurs, continuez à sillonner les routes de France, les campagnes, les forêts pour nous apporter des bonnes nouvelles. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous. François Moutou, vétérinaire épidémiologiste et membre de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, votre guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient est réédité pour la 4e fois, je crois, chez Delachaux. Quant à vous, Pierre Zagatti, entomologiste et spécialiste des espèces envahissantes, entre autres, vous publiez un guide des coléoptères du bassin parisien, également chez Delachaux. À sujet et à destination des auditeurs franciliens, sachez qu'aura lieu samedi prochain 24 juin l'inauguration du parc du Peuple de l'Herbe et sa maison des insectes à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. On pourra y découvrir tous les insectes élevés par l'Office Insectes Environnement. Rendez-vous dès 15h samedi prochain, puis le parc rouvrira en septembre au public. Nous mettons en lien le site du parc du Peuple de l'Herbe sur la page du Sur la route sur le site de France Culture, page à laquelle vous pouvez bien sûr commenter cette émission si vous avez des observations animalières à partager ou podcaster les épisodes précédents. Les photos, c'est sur notre compte Instagram, notre compte Twitter, il faut chercher Julie Gacon. Un merci encore à Fanny Richet et Sébastien Lopoukine de France Culture. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. L'émission a été enregistrée à la Maison de la Radio, studio 108. À la technique, c'était Pierrick Mancini. La semaine prochaine, nous serons sur la route de l'autosuffisance alimentaire dans une ville qui s'est fait fort de l'assurer d'ici 2020. Il s'agit d'Albi. Le projet est nécessairement très long à mettre en place. Nous ferons un petit point plantation sur place, bientôt 19h sur France Culture, lors de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un Monde.